Elle raconte ça. Elle me regarde un peu en me disant « Tu crois que je peux raconter ça aux enfants ?» Je fais « Oui, oui, raconte ça aux enfants, bien sûr. » Donc elle raconte tout, c'était hyper simple et hyper émouvant. Et à la fin de son récit, il y a un petit garçon qui lève le bras et qui dit « Madame, 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 moi aussi je veux être maraîcher !» Et donc, on se dit « Ouais, super, une vocation !»
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Prendre le temps de cuisiner, mettre dans son panier les produits les moins transformés, privilégier le bon goût, le bio, le local, le naturel, la saisonnalité, c'est à la portée de tout le monde, non ? La petite chanson la plus souvent jouée à propos d'une alimentation saine et durable, c'est celle de la responsabilité individuelle. Souvent, on met l'accent sur le fait que manger bon et équilibré n'est pas si compliqué, pas si chronophage, pas si cher. Sur cette question, les mots de l'autrice Aude Vidal sont éclairants. Parfois, le souci de vivre bien va jusqu'à l'adoption de manières de penser très aristocratiques. Tout le monde est capable de mener une vie bonne. Ceux qui ne le font pas n'ont que ce qu'ils méritent, écrit-elle pour illustrer ce déni des antagonismes de classe. Et Aude Vidal d'inventer alors le mot « égologie », en référence aux airs supérieurs que peut se donner une certaine classe sociale. On vous glisse les références de son ouvrage « Égologie, écologie, individualisme et course au bonheur » en description de l'épisode. Il y a donc bel et bien une fracture alimentaire, comme il y a une fracture sociale en général. Et celle-ci commence très tôt. On l'observe dès le plus jeune âge, à l'école. Alors que certains enfants ont dîné la veille attablés avec leurs parents, d'autres arrivent presque le ventre vide. Et puis, il y a celles et ceux qui connaissent une alimentation riche et variée, ouverte sur le monde et les voyages, et les autres, dont la mère qui finit tard et le père quasi absent, ne font que réchauffer des barquettes de hachis parmentiers surgelées. Et en toile de fond, par-delà les inégalités sociales qui peuvent exister entre les élèves, il y a un même horizon bouché, celui de la terre, des champs, des arbres fruitiers, de la ferme. Trop souvent, les enfants ne savent même plus quelle forme ont les légumes et comment ils ont poussé avant d'atterrir dans leurs assiettes. Trop souvent, on se contente de les laisser dire qu'ils n'aiment pas le chou-fleur, alors que celui qu'ils n'aiment pas, c'est celui de la cantine, insipidement cuit à l'eau alors qu'un chou-fleur doré au four pourrait bien leur plaire. Alors, pour rafistoler ces liens brisés entre la terre et l'assiette, mais aussi pour ouvrir les horizons culinaires de tous les enfants, à commencer par ceux qui en ont rarement l'occasion ailleurs dans leur vie, le collectif L'École Comestible veut proposer aux enfants une éducation alimentaire. Emmenée en France par la journaliste culinaire Camille Labro, L'École Comestible s'inspire de l'Edible Schoolyard, créé par Alice Waters en 1995 aux États-Unis. Un programme grâce auquel plus de 5000 écoles à travers le monde ont pu bénéficier d'ateliers d'éducation alimentaire. Pour en savoir plus sur L'École Comestible, je me suis rendue chez Camille Labro dans le 11e arrondissement de Paris. Elle m'a proposé une grande tasse de café et on s'est assise dans la cuisine pour discuter.
On travaille à créer des programmes dans les écoles, sur le temps scolaire, en co-construction avec les équipes pédagogiques et les enseignants et les directeurs, autour d'une éducation alimentaire, de la terre à l'assiette. Donc ça, c'est le principe. Et après, on a vraiment des grands principes transversaux qui sont que ça doit être permettre à l'enfant de comprendre le lien à la terre et à la nature, reconnecter en fait les enfants à la nature, apprendre par le faire. Donc ce sont des ateliers très manuels, très les mains dans la terre, les mains dans la pâte, les mains à la pâte et les mains dans la terre. L'un de mes bénévoles m'a récemment dit que pour lui, l'école comestible, c'était la bouche pleine et les mains sales. Et je trouve que c'est tout à fait représentatif de ce qu'on fait. Donc, ce sont des ateliers qui vont de 1 heure à 1 heure et demie selon les niveaux de classe. On travaille pour l'instant essentiellement avec le primaire, donc maternel, élémentaire. Et on passe beaucoup de temps autour des légumes, de la confection, de la dégustation, de la découverte, de choses qui nous semblent peut-être à nous, qui sommes investi dans la cuisine depuis longtemps, tout à fait normale et courante, mais que la plupart des enfants n'ont aucune idée et sont totalement déconnectés.
Il y a la reconnexion à la nature dont tu parles. Il y a aussi cette dimension sociale, puisque finalement, les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils n'ont pas passé la veille la même nuit, ils n'ont pas mangé les mêmes repas, ils n'ont pas le même bagage culturel, le même patrimoine familial. Est-ce que du coup, il y a aussi cette envie de pallier ces inégalités avec lesquelles on arrive tous en classe quand on est petit ?
Absolument. C'est même l'une des idées fondatrices de l'école comestible, c'est-à-dire que on voit aujourd'hui une fracture sociale et alimentaire, que très souvent, c'est les populations les plus défavorisées qui mangent le plus mal. Et notre objectif, c'est vraiment de réapprendre à tout le monde, à toutes les familles, c'est-à-dire qu'à travers les enfants, on s'adresse aussi aux parents, bien sûr, de réapprendre des principes fondamentaux d'une meilleure alimentation et de montrer et de prouver que ça coûte pas plus cher, au contraire. Par ailleurs, on essaye vraiment de travailler le plus possible avec dans des écoles et dans des quartiers défavorisés. Évidemment, des écoles publiques et si possible avec des écoles dans des quartiers compliqués. Et c'est, on le voit que c'est vraiment, il y a un travail formidable à faire dans ces coins-là. Notamment, on a démarré avec un projet sur l'agglomération de Roissy dans des écoles de Sarcelles, de Villiers-le-Bel, de Garges-lès-Gonesse, etc. Et c'est complètement émouvant et émerveillant de voir ce qui se passe dans nos ateliers, dans ces coins-là. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans les autres écoles, mais c'est particulièrement fort dans ces coins-là. On sent que les enfants et leurs familles, parce qu'on accueille aussi des parents bénévoles dans les classes quand on peut, quand le Covid nous autorise, mais on sent qu'ils sont encore plus réceptifs qu'ailleurs et encore plus reconnaissants, en fait, de ce qu'on peut leur apporter. Et donc, on sent que le terreau est là, que ça peut se faire partout, que c'est pas les enfants des quartiers difficiles qui vont être réfractaires, bien au contraire, et que les étincelles à travers la culture alimentaire sont très faciles à générer. Il suffit de quelques bénévoles bienveillants et un peu fun, d'un sens juste de bon sens par rapport à l'alimentation et tout, puis d'un petit peu de savoir-faire aussi bien pédagogique que culinaire, mais c'est pas difficile. C'est juste une question d'écoute et de bon sens surtout. Avant toute chose.
Est-ce que tu peux nous raconter une fois qui t'a marqué, un atelier que tu as trouvé particulièrement émouvant autour d'une recette ou d'une autre ?
Justement, tout récemment, on a démarré donc avec une classe à Sarcelles. Ce sont des CE2. On travaille, on fait des ateliers dans la cantine. Là, ça dépend. On fait des ateliers où un petit peu où on peut se poser. Et notre premier atelier, c'est un peu l'un de nos ateliers phares. Ça s'appelle l'atelier de la cagette de saison. Donc, on amène une cagette de légumes locaux, de saison évidemment, et bio si possible. On va, si possible, être allé chercher chez un maraîcher local. Or là, c'était le cas. On a pu trouver une jeune maraîchère qui s'appelle Marie, de la ferme des enfants du maraîcher, à Gonesse, donc à 10 minutes de Sarcelles. On a eu du mal à la convaincre parce qu'elle avait beaucoup de travail, mais elle a accepté de venir avec sa cagette pour la présenter directement aux enfants. Donc l'idée de cet atelier, c'est de faire découvrir des légumes de tous les jours, mais que les enfants, honnêtement, quand ils voient les légumes crus sortis de terre, n'ont aucune idée de ce que c'est. Sur la betterave, par exemple, ils en mangent quasiment toutes les semaines à la cantine. Mais par contre, quand on leur sort une betterave avec les fans et la radicelle, etc., ils n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est-à-dire que j'ai vu un chiffre récemment que 87% des enfants ne savent pas à quoi ressemble une betterave. Mais moi, dans mes classes, je vous dirais que c'est même 95%. Donc, on leur montre tous ces légumes, on leur raconte comment ça pousse, si c'est au-dessus de la terre, en dessous de la terre, qu'est-ce que c'est les fans, si c'est un légume racine ou un légume feuille ou un légume tige. On leur raconte un peu les principes de l'alimentation végétale. Et ensuite, dans un deuxième temps, on se met en petit groupe et on explore, on lave les légumes évidemment, et puis on les épluche, on les regarde, on les sent, on les touche et on les goûte. Bien sûr. Si on a le temps, c'est souvent le cas avec les plus grands, on fait même une petite sauce et on les mélange ensuite en salade. Et on se rend compte que quand c'est en salade, c'est encore différent. Les goûts qu'on n'a pas trop aimés, tout cru, vont être plus acceptables, voire même délicieux. Il se passe des choses formidables dans ces ateliers parce qu'en fait, tous les enfants mangent les légumes contre toute attente. Les parents qui sont présents sont estomaqués en général, regardent leurs enfants avec des yeux ronds comme des billes en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai jamais vu ça à la maison ». Et surtout, ils adorent ça. Ils adorent ça. Mais vraiment, j'ai eu très, très peu d'enfants qui réagissaient négativement en crachant, en faisant berk, voilà. Même des betteraves crues, des poireaux crus, des fenouilles, des trucs bizarres, enfin, tout. Et donc, dans cet atelier, Marie commence par présenter ses légumes. raconte un peu son parcours. Elle a un parcours particulier parce qu'elle est, elle est toute jeune, à 27 ans, et elle va commencer dans la pub. Et elle a fini, elle a une espèce d'épiphanie et une envie de retour à la terre. Son père était maraîcher et donc elle a décidé de se reconvertir au maraîchage. Elle raconte ça, elle me regarde un peu en me disant « Tu crois que je peux raconter ça aux enfants ?» Je fais « Oui, oui, raconte ça aux enfants, bien sûr. » Donc elle raconte tout, c'était hyper simple et hyper émouvant. Et à la fin de son récit, il y a un petit garçon qui lève le bras et qui dit « Madame, 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 moi aussi je veux être maraîcher !» Et donc, on se dit « Ouais, super, une vocation !» et par ailleurs, il y avait donc trois parents dans cet atelier, dont un papa, qui c'est rare d'avoir des papas. Et le papa a tout écouté, tout absorbé, très calmement, à côté de sa fille qui était très dynamique pendant tout l'atelier. Et à la fin, il faisait un grand, comme ça, qui s'est déplié et il est allé voir la maraîchère pour lui demander où poussaient ces légumes magnifiques et comment il pouvait se les procurer. Parce que le type, il n'avait jamais vu ça. Et tout d'un coup, et Marie lui a dit, bah, moi, je vends à la ferme tous les vendredis et les samedis, venez. Et donc, on s'est rendu compte qu'en plus, ce monsieur allait acheter des merveilleux légumes super bons qui ne sont pas plus chers que ceux du supermarché, puisqu'ils sont à côté et en direct, et que ça allait peut-être changer un petit peu l'alimentation de sa famille. Donc ça, pour moi, c'était un atelier hyper réussi.
Là, typiquement, ce qui a marché, déjà, c'est de voir que les enfants n'étaient pas du tout réfractaires à l'idée de manger ces légumes. Peut-être aussi parce que ils ont pu voir le processus avant, les analyser, et puis les avoir en main, quoi, ce qui est différent de quand on reçoit une salade de pommes de terre ou du fenouil râpé dans une assiette. Et pour ce père, du coup, bah, c'est tout simplement lui montrer que c'était possible de pouvoir accéder à ces légumes si simplement. Donc, l'enjeu, c'est vraiment la communication, montrer aux gens que ça existe, aux parents comme aux enfants, et reprendre un petit peu ce lien qui est coupé quand on vit en ville. Est-ce que ce sont les mêmes enjeux, tu penses, pour les enfants qui vivent plutôt justement dans des endroits moins urbains ?
Alors, à vrai dire, notre association a un an et demi. Donc, pour l'instant, on travaille essentiellement sur l'Île-de-France. Donc, je n'ai pas encore le retour d'expérience sur des milieux ruraux. À 100%, puisqu'on n'a pas encore monté d'écoles comestibles dans les milieux ruraux, dans des écoles rurales. Mais par contre, on a quand même eu des expériences dans l'agglomération de Roissy, justement, dans une petite, toute petite ville minuscule qui s'appelle Moussy-le-Neuf, qui est au nord de l'aéroport de Roissy, vraiment au milieu de la campagne. Moi, je peux vous dire que les enfants, c'est à peu près la même chose. Alors, c'est marrant parce qu'au début des ateliers, on fait un petit test pour savoir un petit peu, mesurer un peu leurs connaissances, et puis aussi l'impact de nos ateliers à la fin, parce qu'on refait les mêmes questionnaires à la fin, et on leur demande de nous donner les mots-clés correspondant à une ferme. Et alors, c'est vrai que là, on n'obtient pas les mêmes mots avec des petits Parisiens qu'avec des enfants au milieu de la campagne. Donc, les petits Parisiens, ils vont dire, les premiers mots qu'on a, c'est toute la panoplie des animaux de la ferme. Donc, des cochons, des vaches, des poules, des canards, etc. Et puis, un tracteur. Côté Moussy, on a quand même eu des choses un petit peu plus spécifiques. On a eu le champ, on a eu un peu plus de végétal, on va dire. Et puis, le silo aussi, ça, il nous avait scotché, celui qui a sorti le silo. Donc, une connaissance peut-être de la ruralité un peu différente. Mais encore une fois, quand on en vient à l'assiette et à l'alimentation, rien du tout. C'est-à-dire que les enfants, personne n'est là pour leur dire comment pousse et comment se transforme ce qui arrive dans leur assiette. Il n'y a plus du tout cette connexion-là. Elle existait avant avec les fameuses leçons de choses, mais on a mis ça de côté parce qu'on a trouvé ça pas important, en fait. Donc nous, on essaie de remettre l'importance là où elle est, et c'est pareil à la campagne qu'à la ville, au sens où les enfants qui vont au champ, il y en a pas. Sauf des enfants d'agriculteurs, c'est sûr. Donc là, moi, j'en ai pas encore eu des enfants d'agriculteurs. Mais là, par exemple, dans cette ville de Moussy, on a aussi croisé l'agriculteur qui, pour le coup, a un champ à côté. On le voit de l'école, son champ. Les enfants peuvent y aller à pied. Bon, bah, autant vous dire que pour l'instant, aucun n'y était allé au champ. Et il se trouve que c'est super, c'est très vertueux. Cet agriculteur fournit la cantine de ses légumes. Mais personne ne leur avait dit. Et donc, quand le Guillaume, ce maraîcher, est venu parler aux enfants et présenter ses légumes lui aussi, eh bien, le jour même à la cantine, les enfants ont fait la connexion. Et on fait le lien. On dit « Ah, mais c'est les légumes de Guillaume. Ils sont trop beaux, les légumes de Guillaume. » Voilà. C'est, en fait, c'est pas compliqué de reconnecter les trucs. de reconnecter, de remettre des liens là où il n'y en a plus, là où on les a perdus. Sauf qu'on ne le fait pas et on vit dans une société qui est totalement compartimentée, où on a sectorisé, on sépare les problématiques agricoles, alimentaires, déjà ça, c'est n'importe quoi, on sépare les problématiques alimentaires, sanitaires, ou alors on rend le truc tellement aseptisé qu'on ne parle plus de goût, on ne parle plus de plaisir, on parle d'une espèce d'alimentation voilà, sanitaire, horrible, et ainsi de suite. Donc vraiment, le travail, c'est tout reconnecté. Le plaisir avec la santé, le goût avec les trucs beaux et bien pour l'environnement, parce que tout va ensemble. Tout va ensemble. Donc, c'est vraiment l'idée de base de notre travail.
Est-ce que tu formules des souhaits par rapport à l'école comestible, que ce soit finalement un projet qui grandisse et qui puisse s'implanter dans plus de villes encore, ou même des cours incorporés forcément dans un cursus, genre quelque chose d'obligatoire, enfin de gravé dans le marbre?
Carrément, bien sûr. Notre objectif, il est sans limite. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50 000 écoles publiques en France et on aimerait être dans toutes les écoles publiques de France. Alors pas tout de suite, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. L'essaimage, il est lent. On veut prendre le temps de le faire parce qu'il faut former les équipes, former les gens pour que les bonnes valeurs soient transmises. Mais bien sûr, on veut être partout et on voudrait aussi qu'à un moment donné, l'éducation nationale nous entende et repense à, et inclut tous ces principes dans les programmes de l'école. Par contre, on est aussi très précautionneux parce qu'on ne veut pas être absorbé par l'éducation nationale pour que ça redevienne quelque chose de rébarbatif pour les enfants. Et j'ai envie de dire, c'est contradictoire, mais trop scolaire. Et c'est pour ça que pour l'instant, on est dans une position un petit peu rebelle, tout en travaillant avec l'éducation nationale, puisqu'on travaille avec des profs. Mais on travaille avec les profs qui ont envie de le faire, c'est-à-dire qui sont ouverts à un petit peu d'originalité et un petit peu de différence, de protocole. Donc moi, vraiment, mon souhait, mon idéal, ce serait que peut-être dans 10 ou 15 ans, hein, ça va prendre ce temps-là, à minima, tout d'un coup, il y ait un peu une prise de conscience au sein de l'éducation nationale et de la majorité des profs et des décisionnaires qu'on peut faire un peu les choses autrement, qu'on peut faire l'école dehors, qu'on peut faire l'école dans le potager, que c'est tout aussi puissant, voire plus fort que d'être dans des salles de classe, sur des bureaux où les enfants ne peuvent pas bouger et où on leur fait apprendre des trucs complètement abstraits avec lesquels ils n'ont aucun lien. Donc, quand on fait faire de la géométrie aux enfants, quand ils sont en CM1, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent? Par contre, si on leur fait faire des maths ou de la géométrie autour d'une recette qu'ils vont faire, et donc ensuite ils vont déguster, il y a plein d'éléments. Donc oui, on essaye aussi de tisser toutes ces valeurs autour du potager, de la cuisine, de l'alimentation et des recettes, de nous montrer que tout ça peut s'incorporer dans les enseignements fondamentaux. C'est-à-dire qu'on peut faire des langues, on peut faire de la géographie, on peut faire de l'histoire, quand on parle de l'histoire des légumes, par exemple, d'où viennent la patate, la tomate, etc. On va parler de la colonisation, on va parler des Incas, on va parler des grands voyages des conquistadors, etc. Donc, tout est possible et on peut évidemment, sans oublier tout ce qui est biologie, chimie, etc., qui est intimement lié à la cuisine et à la culture alimentaire. Donc, en fait, pour nous, l'alimentation est un vecteur pour tout apprendre. Mais apprendre en faisant. Pas apprendre juste sur un bout de papier avec un livre devant les yeux. Apprendre en étant les pieds ancrés dans le sol, les mains dans la terre ou dans la farine, en goûtant, en regardant, en sentant des trucs, en ayant des sensations, et aussi, très important, en étant ensemble. Parce qu'on est aussi dans une société qui prône l'individualisme. Or, c'est tragique, l'individualisme. Ça accuse encore la fracture sociale. Et donc, on veut montrer aux enfants que si on fait un potager, c'est pour la collectivité. On n'a pas chacun son tout petit coin de potager. Si on plante une graine, On en plante une parmi tant d'autres et elles vont toutes nourrir la collectivité, pas juste sa petite graine qui va nourrir ça. Ça marche pas. Hein. Et si on fait un plat, ben on fait un plat pour faire goûter aux copains, pour nourrir les copains, pour nourrir ses proches et pour qu'on puisse tout partager ensemble. Et ça, c'est génial. Et quand les enfants comprennent ça et qu'on leur dit « Non, mais là, le mortier que t'as entre les mains, c'est pas parce que c'est ta mère qui l'a prêté pour l'atelier que c'est juste toi qui vas t'en servir. Non, tu vas le prêter, tu vas le partager avec les autres et tu vas faire goûter ce que t'as fait, etc. » Ils ont du mal, les gamins. D'autant plus qu'ils sont pas habitués à ça, mais ça fait des trucs formidables après. Ça fait une écoute, un partage, on fait attention, c'est la culture du care, comme on dit en anglais, qui est essentielle aujourd'hui, parce qu'on en manque trop. Quoi.
Qu'est-ce que tu penses des cantines aussi en France ? Parce que donc là, on parle de ramener l'alimentation finalement dans le programme scolaire ou trouver des interstices pour recréer ce lien dont tu parles et qui a été malheureusement un peu brisé. Mais la cantine, donc, c'est cet autre endroit à l'école où on se nourrit, on mange, voilà, c'est le moment en fait où on a son plateau et on récupère ses petites assiettes. Il y a beaucoup de choses à perfectionner sur cette offre. C'est le moins qu'on puisse en dire, je crois.
Ouais, carrément. La cantine. C'est le troisième grand pôle de notre réflexion. Sauf que il est très loin derrière encore, parce que c'est très compliqué. C'est politique, la cantine. C'est les pouvoirs publics qui s'en emparent. Très peu d'écoles ont, en fait, sont décisionnaires sur leur propre cantine. Et pourquoi? Parce qu'il y a presque plus de cuisiniers dans les écoles. Que tout est centralisé. Alors, au mieux, ça va être une cuisine centrale sur une localité, donc un arrondissement à Paris ou une petite ville. C'est pas nul, mais ça veut dire qu'en gros, le cuisinier ne sait pas pour qui il cuisine, ne voit pas les enfants qui vont déguster ses plats. Et donc, il y a là aussi un lien qui est complètement brisé. Et au pire, ça va être des délégations à des géants de la Restoco, que je ne nommerai pas ici, mais qui ont des process complètement industrialisés. Bon, oui, certes, qu'ils peuvent mettre du bio si on leur demande, et qu'ils peuvent même, si on leur demande, ils sont ouverts à tous les cahiers des charges possibles, donc ils peuvent même, si on leur demande, avoir recours à des agriculteurs locaux. Sauf que, encore une fois, ce sont des process industrialisés, on a perdu l'amour de cuisiner, on a perdu le lien, on a perdu la connexion, et quand ça arrive dans les assiettes des enfants à la cantine, on ne sait pas qui l'a fait, comment c'est fait, d'où ça vient, on ne sait plus rien. Donc ça, déjà, c'est un drame. Après, en termes de qualité, la cantine laisse gravement à désirer dans de nombreux endroits. Alors, il y a des exceptions. Hein. Il y a des cantines d'école délicieuses, mais elles sont extrêmement rares. On les compte quasiment sur les doigts d'une main. Et c'est un drame. Ouais, c'est un drame parce que les enfants, au quotidien, bouffent de la merde, voilà, en général. En plus, on fait tout à l'envers. On leur donne beaucoup trop de protéines animales. Les alternatives végétales sont... pas bonne, donc ils les mangent pas. Enfin, c'est une catastrophe et les nutritionnistes qui sont attitrés à ça s'en sortent pas parce qu'elles ont trop de cahiers des charges compliqués. Et nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on aimerait bien sûr pouvoir aussi avoir un impact là-dessus et s'investir et faire travailler les cuisiniers avec les enfants pour réfléchir à des menus qui pourraient plaire à tout le monde et être fun et que les enfants reconnaîtraient dans l'assiette. Mais il y a que des endroits comme Moussy-le-Neuf, par exemple, où il y a un cuisinier qui est là, que les enfants voient et qui voient les enfants, où ça peut marcher, ça. Et puis, l'autre chose, c'est que la cantine, c'est le domaine du périscolaire. On n'est plus en temps scolaire. Donc moi, je me suis entendue dire, quand j'avais, par exemple, suggéré l'idée, une fois, de faire des jolies sets de table pour mettre dans les plateaux, des trucs qui pourraient montrer aux enfants, par exemple, pour revenir au voyage des légumes, d'où viennent les légumes qu'ils ont dans l'assiette ce jour-là. On imagine par exemple un repas mexicain et on leur raconte le parcours du maïs ou même le principe des trois sœurs dans la milpa et comment ça pousse mieux quand on associe la courge, le haricot et le maïs, etc. Des trucs qui seraient dessinés, qui seraient ludiques. Bon, je me suis entendue dire « Ah mais non, mais tu vas pas faire travailler les enfants à la pause méridienne. C'est le temps de repos. » Donc en fait, dans ce temps de repos, ce que les enfants ont le droit de faire, c'est de ne pas manger, de bouffer trop de pain parce qu'ils mangent rien d'autre parce que c'est pas bon, et d'aller se défouler dans la cour sinistre où il n'y a pas un arbre. Voilà. Moi, je suis désolée, on peut mieux faire. Donc, mais c'est très compliqué, et c'est très compliqué parce qu'en plus, là aussi, un lien brisé, là, en la plupart du temps, le scolaire et le périscolaire s'adressent à peine la parole et se méprisent l'un l'autre. Donc, on est vraiment dans une situation très compliquée en termes de cantine, mais on a quand même des petites pistes. Donc, on suggère quand même, par exemple, même s'il n'y a pas de cuisinier dans la cantine, qu'on puisse avoir l'idée de mettre des légumes, vous voyez, les légumes entiers qu'on mettrait à l'entrée de la cantine le jour où ils sont servis, par exemple. Parce qu'on s'est bien rendu compte, par exemple, donc pour revenir à la betterave, qu'ils ne savent pas quelle tête ça a. Donc, le jour où il y a des betteraves en salade en entrée, eh ben, on leur met trois belles betteraves avec leurs fans, encore un peu de terre dessus et tout, pour leur dire « oui, ben c'est ça, c'est à ça que ça ressemble avant que ce soit transformé jusque dans ton assiette ». C'est déjà, ce serait déjà un tout petit pas. Et après, il y a plein de choses, mais c'est un combat monumental, les contenus des assiettes dans les cantines. Il y en a d'autres qui le mènent très très bien, notamment l'association A Plus Bio ou une autre association qui s'appelle Les Pieds dans le Plat, qui essaye d'éduquer les cuisiniers à mieux faire. Mais il y aurait aussi à faire un travail de lobbying auprès des politiques, qu'on fait, nous, on commence, mais pour leur dire « remettez des cuisiniers dans les cantines, remettez des cuisiniers dans les cantines, remettez des cuisines dans les cantines et des cuisiniers dedans ». Parce que au final, on nous dit « mais c'est trop cher », etc. Mais pas tant que ça. Là, on a trois cantinières dans chaque cantine qui sont payées à ouvrir des barquettes. Si on leur réapprenait, on leur redonnait les rênes de ce qu'elles savent faire à la base, ça ne coûterait pas forcément plus cher. Et elles seraient heureuses de faire leur métier en plus.
Après notre enregistrement, Camille Labro m'a parlé de son éducation alimentaire à elle. De son enfance dans le sud-est de la France, elle a peu de souvenirs de cantine, dont la nourriture n'était pas mauvaise, mais avait au moins le mérite d'être élaborée sur place, en liaison chaude. Alors, à part une vague image mentale d'épinards à la crème et des rires avec les camarades de classe, Camille Labro se souvient surtout que ne pas pouvoir rentrer manger à la maison le midi était une tragédie pour elle, élève qui habitait pourtant proche de l'école et dont la mère était au foyer. Une tragédie accentuée par le fait que Martine, sa maman, était une excellente cuisinière, dont les talents étaient salués par tout l'entourage. Et c'est de là que Camille Labro tire son bon coup de fourchette. Martine était capable de préparer les repas 3 jours à l'avance pour peaufiner une marinade de volaille, faire des lasagnes avec une pâte aussi fine que du papier à cigarette, le tout avec des herbes du jardin et les fruits et légumes du potager, bichonnés par Claude, le papa de Camille. Avec l'école comestible, c'est donc aujourd'hui comme si Camille Labro faisait en sorte d'éveiller à la cuisine et à la nature les élèves qui n'ont pas eu la chance d'avoir, comme elle, une maman Martine et un papa Claude dans le sud-est de la France. Merci à Camille Labro de nous avoir donné de son temps pour parler d'éducation alimentaire et de l'école comestible. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Charline Yao. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Maillot.